que rendre misérable cette commission d'études, de réflexion, des assemblées, j'aimerais vous dire la joie que j'ai d'être au milieu de vous ce matin et de voir que malgré les épreuves que vous avez connues, l'Assemblée est vivante, elle est remplie de foi, elle est remplie d'amour. Et de vous entendre et de voir des jeunes qui se lèvent, ça m'encourage énormément. Et puis en tant que frère de ma petite sœur Rose, j'aimerais aussi dire la joie que j'ai de voir ces enfants, ces beaux enfants, ces petits-enfants dans cette assemblée. Je partage votre joie. Voilà, je vous encourage à continuer, à vous aimer, à vous soutenir les uns les autres, à chercher la gloire du Seigneur. Amen. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Psaume 81, le premier verset tout d'abord, psaume 81, psaume d'Asaph. J'aime ce Asaph. Lévite de l'ancienne alliance, fidèle dans le service, consacré, zélé, bouillant, il portait bien son nom, celui qui rassemble. Comme tout Lévite, il était chargé de s'occuper du sanctuaire, de transporter le tabernacle, de dresser la tente de la rencontre, d'en prendre soin, d'assister les sacrificateurs dans leurs travaux, leurs responsabilités, d'assurer avec eux le service journalier dans le temple, les sacrifices nécessaires pour que chacun du peuple de Dieu puisse trouver ou retrouver la communion avec son Dieu, selon les paroles que Moïse leur avait transmises. Et puis d'organiser aussi, plusieurs fois par an, les fêtes souvenirs à des moments clés de l'histoire, comme par exemple la sortie du pays d'Égypte. L'occasion chaque fois pour ces Lévites de rappeler les bénédictions, les avertissements, les conditions de l'Alliance, les lois de Dieu, et à respecter ce plan de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Asaph assumait strictement, consciencieusement. Est-ce que j'ai le micro trop haut? J'ai l'impression que... Ça te va comme ça? C'est bien. Il assumait. Mais de plus, ce n'était pas rien. Avec sa famille, il était chargé de jouer d'instruments, comme vous l'avez fait ce matin. De chanter devant Dieu, d'entraîner l'assemblée dans les cultes d'adoration. Ce qu'il faisait admirablement bien. 12 psaumes sont attribués à ce Asaph. Les psaumes 50, et puis 73 à 83, et nous sommes au 81 qui est un de ces psaumes aujourd'hui. Tous ces psaumes adressés à un Dieu vivant, à un Dieu agissant, un Dieu qu'il connaît, un Dieu qu'il aime, qu'il appelle dans ses cantiques sa force, son refuge, son roi, le berger d'Israël, le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous est proche. Et il s'écrit, m'approcher de ce Dieu-là, c'est mon bien. Quel bouillonnement, quel débordement de reconnaissance, d'amour dans le cœur de ce Asaph. On le voit à travers ses cantiques. Asaph, un musicien, un poète, une sensibilité pour le service de Dieu et pour le bien de toute l'Assemblée, un prophète, comme il est aussi appelé dans les livres historiques des rois et des chroniques, un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit, qui discerne la pensée de Dieu et qui la communique. Quel homme précieux, pour l'assemblée d'Israël, n'est-ce pas? Asaph, un croyant vrai, pratiquant, comme il y en a certainement dans toutes les églises, cherchant en tout à plaire à Dieu, à faire tout ce qu'il demande, à suivre les règles enseignées, à aimer et à servir ses prochains. Vous savez, le monde déboussolé dans lequel nous vivons aujourd'hui a tant besoin de tels témoins authentiques, cherchant une relation vraie, une relation sincère avec un Dieu vivant, des hommes, des femmes dignes de respect, dignes de confiance. Le monde qui nous entoure a besoin de voir ça. Gloire à Dieu aujourd'hui pour le service, le rayonnement humble, fidèle de tels membres d'Église, pratiquants, pour l'impact qu'ils ont dans leur famille, qu'ils ont dans leur entourage, au boulot, le bon témoignage qu'ils donnent, l'exemple qu'ils laissent. Amen. Amen. Que nous en soyons, mes amis. Mais je n'aurais pas parlé d'Asaph aujourd'hui si j'avais pas été interpellé par le verset 7 de son psaume. Une parole étonnante, une parole surprenante, une parole incroyable dans sa bouche. À partir de la fin du verset 6, j'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai entendu, je t'ai délivré. Après trois petits points, au verset 6, après trois petits points dans le texte qui interrompent sa louange concernant l'intervention extraordinaire de Dieu lors de la délivrance de l'esclavage d'Égypte au temps de Moïse, il se surprend lui-même. Il y a trois petits points et puis il est écrit « J'entends un langage qui m'est inconnu ». Et ce langage inconnu dit « J'ai délivré, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille ». Un langage qui m'est inconnu. Lequel ? Celui de la grâce de Dieu, que nous avons rappelé ce matin. Celui de cette grâce incroyable, infinie, bienfaisante de Dieu. Vous savez, dans une religion comme la sienne, la religion de l'ancienne alliance, mais comme la nôtre parfois aussi, religion parfois faite de rites, de traditions, de lois, où on fait le maximum pour plaire à Dieu, on ne sait jamais si on en a assez fait. Où on fait souvent semblant, surtout quand on se retrouve le dimanche. Mais on n'est pas en paix, on se culpabilise. Où on a tendance, parfois même, à essayer de compenser nos manquements par des bonnes actions, par des sacrifices, à marchander avec Dieu, donnant, donnant. Mais on est souvent déçu. Parce que Dieu ne semble pas jouer ce jeu-là. Il ne répond pas à nos attentes. Il fait le sourd. Et on reste impuissant, prisonnier de nos faillites, de nos peurs, de nos soucis. Dans cette religion bien réglée, légaliste, illusoire de l'ancienne alliance, résonne au cœur d'Asaph une parole jusque-là inconnue. Nouvelle, une parole libératrice, celle de la grâce de Dieu, qui vient à sa rencontre et qui lui murmure tendrement « J'ai déchargé ton épaule du fardeau. » Et ses mains ont lâché la corbeille. « J'ai déchargé son épaule du fardeau. » Quelle épaule ? Quel fardeau ? Certainement l'épaule fatiguée du peuple hébreu, esclave du Pharaon, dont il a parlé juste avant, au verset 6. Un peuple peinant à fabriquer des briques, comme dit souvent mon beau-frère quand il va au boulot. Hein. Un peuple qui construisaient les temples et les pyramides en Égypte, de plus en plus malheureux, incapables de se libérer lui-même, jusqu'à l'intervention miraculeuse de Dieu. Certainement cette épaule-là, fatiguée du peuple de Dieu. Mais aussi l'épaule épuisée du peuple de Dieu plusieurs siècles après, du temps d'Asaph. Quand les choses ne vont pas comme elles devraient, et ça arrive dans l'Église, que les choses ne vont pas comme elles devraient. Quand l'ennemi fait son œuvre d'intimidation, de destruction, peut-être aussi l'épaule d'Asaph lui-même, conscient de ses limites, de ses responsabilités, du ministère contraignant, exigeant, qu'il porte parfois seul, incompris, critiqué par ses frères, qui ne sont pas tendres avec lui. Ça arrive, vous savez, aux serviteurs de Dieu, d'être ainsi visé, critiqué, peut-être l'épaule d'Asaph, mais aussi l'épaule de tout croyant à chaque génération, culpabilisé par ses propres manquements, par ses péchés, par ses limites, miné, épuisé par ses soucis, des fardeaux trop lourds à porter. Conscient de ne pas être à la hauteur des attentes des siennes, de celles des autres et de celles de Dieu. Tellement chargé, tellement écrasé, épuisé, découragé. Peut-être ton épaule aujourd'hui. Peut-être ton épaule aujourd'hui. Fatigué, fatigué de porter une corbeille pleine de fardeaux pesants. Que tu connais, que d'autres discernent, qui te poursuivent, qui t'écrasent, qui t'empêchent d'avancer, qui te culpabilisent. Peut-être depuis longtemps, peut-être depuis peu. Quel Dieu apporte aujourd'hui cette parole libératrice? Quel Dieu? Un Dieu qui sait que tu ne t'en sortiras pas sans lui. Un Dieu, comme il est dit au début du verset 8, qui t'entend et qui te délivre quand tu cries à lui dans ta détresse. Un Dieu qui prend sur lui. Je ne sais pas si vous avez entendu, je relis cette parole. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans ta détresse et je t'ai délivré. Est-ce que vous entendez cette parole? Cette parole bienfaisante, cette parole libératrice, cette parole éternelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Vous entendez quand vous lisez la Bible, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. » Ça a été rappelé tout à l'heure, « J'ai porté vos souffrances, vos fautes, vos douleurs, je m'en suis chargé. » Pourquoi les garder? Tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Abandonnez cette voie, je vous pardonne. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends moi-même soin de vous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une semaine à la durée de sa vie? Rejetez tout fardeau, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement et courez avec les yeux fixés sur Jésus. Viens, laisse-moi décharger ton épaule du fardeau, lâche ta corbeille et surtout ne la reprends pas. Ce sont toutes des paroles que vous entendez quand vous lisez attentivement la Bible. Alors vous me regardez, vous m'écoutez, vous vous dites à juste titre, mais enfin quand est-ce que lui va se décharger de tous ces poids qu'il porte? Et vous avez raison, c'est maintenant. C'est très lourd. Je ne peux pas les déposer là. Je vais les déposer au pied de la croix. Voilà. C'est là qu'ils ont leur place. Ça fait du bien. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Bien-aimé, quelle est la seule réponse valable que nous pouvons apporter à la grâce de Dieu? Que tu continues à porter, à supporter, à souffrir ou à compenser, à faire semblant? Non, trois fois non. C'est, premièrement, que tu cries à lui ta détresse. Comme il le dit au verset 8, que tu sois humble et honnête, un appel au secours sincère, vrai. Là où tu touches le fond, conscient de ce qui te pèse, convaincu que dans sa miséricorde, sa corde pour la misère, sa compassion, il t'entend et te répond. Comme lui seul peut le faire, avec sa grâce. Tout est péché, tout est fardeau qui te pèse depuis longtemps, tes soucis, il les a pris sur lui à la croix pour que tu en sois déchargé. Parce que lui-même s'en est chargé. Pour que tu en sois délivré, libéré, que tu sois enfin un homme, une femme debout. Qui respire à l'aise, qui marche avec Jésus. Vous savez, ce n'est pas seulement valable pour les amis de Teen Challenge, qui sont parfois, ou qui ont été parfois esclaves de la drogue, ou de l'alcool, ou de je ne sais quelle dépendance. Gloire à Dieu pour ce beau ministère de Teen Challenge. Et c'est aussi valable pour nous les chrétiens. Fatigués, épuisés de porter de lourds fardeaux. Appelé à discerner tout ce qui nous arrête, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche de vivre comme des vrais enfants de Dieu. À confesser cela, à lui crier nos difficultés, nos détresses. La première chose que nous pouvons apporter comme réponse à la grâce de Dieu, c'est d'être honnête et de lui dire, Seigneur, les voilà mes fardeaux, les voilà mes poids. Et puis deuxièmement, c'est que tes mains lâchent la corbeille, vraiment, et que tu ne la reprennes pas. Un lâcher-prise conscient, un lâcher-prise nécessaire, un lâcher-prise qui coûte parfois, c'est un pas de foi. Un lâcher-prise sans lequel la grâce de Dieu est absolument inopérante. Ce sont des théories. Sans lequel la bonne nouvelle est vaine, sans lequel rien ne change, sans lequel on continue à porter trop lourd, à traîner des casseroles et à se débattre avec sa misère. Bien-aimé, entendez-vous la voix du Seigneur? Ou est-ce encore pour vous un langage inconnu? C'est en tout cas plus un langage inconnu pour Asaph. Et il partage la nouvelle avec ses frères dans la foi. Parce que trois fois dans la suite de son psaume, regardez au verset 9, « Écoute mon peuple ». Fin du verset 9, « Israël, si tu m'écoutais ». Verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait ». Trois fois, Asaph interpelle, supplie l'assemblée d'Israël de la part de Dieu. « Écoute mon peuple, écoute, si seulement tu m'écoutais. « S'il te plaît, écoute-moi. » Comme s'il disait, « Perçois-tu mon amour pour toi ? Mon désir et ma capacité de te décharger, de te libérer, de te redresser, de porter pour toi. » Alors pourquoi cette insistance ? Parce que trop souvent, nous, comme eux, nous entendons le message, là, dans notre tête, mais nous ne l'écoutons pas avec notre cœur. Et il n'a dès lors aucun impact dans notre vie. Une semaine plus tard, nous l'avons oublié. C'est comme si Dieu avait parlé au mur, comme s'il avait parlé pour rien. Pourquoi croyez-vous que quand Jésus s'adresse aux sept églises de l'Apocalypse, hein, Apocalypse chapitre 3, chapitre 4, pourquoi croyez-vous que chaque fois il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Et il ajoute, repens-toi, repens-toi, remets-toi en question, sinon tu passeras à côté. Parce que c'est ça notre problème. Nous sommes bouchés de la feuille et du cœur. Nous ne prenons pas au sérieux. Nous ne faisons pas le pas de foi attendu. À la fin d'un message, celui-ci ou n'importe quel autre message, dans un culte, une méditation personnelle, une exhortation que vous recevez d'un frère, d'une sœur, ne devrions-nous pas toujours nous poser les quatre questions suivantes? Premièrement, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Deuxièmement, qu'est-ce qui doit changer? Troisièmement, quel est le premier pas à faire? Et quatrièmement, quand est-ce que je commence? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce qui doit changer? Quel est le premier pas et quand est-ce que je commence? Chaque fois, nous devrions nous dire cela. Concrètement, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est capable, parce qu'il m'aime, j'avance. J'avance en lui faisant confiance. J'applique ce qu'il m'a dit. Question avant de conclure. Suite à ce message clair et pressant de Dieu que Moïse a transmis au début de l'Exode, que seraient devenus ces esclaves hébreux? Que seraient devenus ces esclaves hébreux s'ils ne s'étaient pas levés pour sortir du camp, pour suivre Moïse, pour mettre leurs pieds dans la mer, pour avancer dans le désert en comptant seulement sur la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient simplement entendu le message que Moïse leur disait « Je suis venu pour vous conduire, pour vous libérer » s'ils étaient restés sur place? Eh bien, ils seraient restés esclaves à pleurer sur leur sort. N'est-ce pas ce que nous vivons trop souvent? Et puis, suite à ce psaume 80 que Dieu a inspiré à Asaph, qu'aurait-il vécu et ses frères avec lui s'il avait bouché ses oreilles à ce langage inconnu qui le bouleversait? Il aurait peut-être abandonné, découragé, désespéré pour lui-même, pour l'assemblée. Mais ils ont écouté, ils ont cru et ils ont fait des pas de foi et ils ont vu le Seigneur à l'œuvre. Que signifie l'évangile de la grâce de Dieu? Je décharge ton épaule du fardeau, lâche la corbeille pour nous chrétiens évangéliques aujourd'hui. Et pour ceux qui nous observent, qui nous entendent, qui nous regardent vivre, si nous restons prisonniers de nos péchés, de nos dépendances, de nos mauvais caractères, de nos problèmes de relations, de notre passé, de notre présent, si nous ne savons pas quoi faire de tous ces fardeaux, de tous ces soucis qui remplissent nos corbeilles, si nous continuons à porter dans notre cœur amertume, rancœur, jugement, colère, refus de pardon, qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile si nous restons avec ces poids-là? Mesurons-nous à quel point ces choses pèsent réellement dans nos corbeilles, nous freinent personnellement, bloquent parfois l'assemblée, contredisent le témoignage? Resterions-nous écrasés, prisonniers, esclaves, fatigués, chargés, tristes, découragés, des perdants, des losers, alors que nous pouvons lâcher prise? Pour notre plus grand bien, pour la gloire du Seigneur. Alors, conclusion. Ce même message de la grâce de Dieu, vécu est proclamé par Asaph, par les prophètes, par les apôtres, par les premiers disciples, nous serait-il un langage inconnu? Pas vraiment écouté, pas assez pris au sérieux. Il est pourtant la base d'une nouvelle relation, d'une nouvelle alliance, le point de départ d'un réveil spirituel. La condition, le premier pas vers une vie nouvelle, debout, une vie déchargée, une vie libérée, une vie remplie, une vie rayonnante, une vie paisible, une vie qui donne envie de connaître le même Sauveur. Bien-aimés, vous entendez? Il vous dit personnellement ce matin, j'ai déjà déchargé ton épaule. Il n'y a pas de raison que tu restes chargé. Il n'y a pas de raison que tu restes chargé. Quel fardeau pèse encore dans ta corbeille? Je pourrais reprendre tous ces poids qui sont là dans la corbeille. Peut-être des péchés. Lesquels? De l'amertume? Envers qui? Des inquiétudes? Pourquoi? Des soucis? Pour qui? Des peurs? Lesquelles? Essaye de visualiser quels sont ces poids qui te pèsent. Le Seigneur te demande trois choses aujourd'hui. Mets un nom, première chose, mets un nom sur chacun de ces poids qui sont dans ta corbeille. Réfléchis bien à ses causes, à ses effets. Mets un nom dessus. Je voudrais te laisser quelques minutes pour y réfléchir. Deuxièmement, dis-les à Jésus, ton Sauveur, ton Maître, dans une courte prière silencieuse. La Bible nous encourage à confesser, à rejeter, à refuser, à déposer ces choses. Fais-le! Fais-le, il t'entend. Dis-lui, oui Seigneur, ça je le décharge, je le refuse, je ne veux pas continuer à porter ça. Grâce à toi, j'ai le droit de faire ça. Alors je le fais. Et puis troisièmement, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il t'en décharge. Pourquoi il t'en décharge? Parce qu'il s'en est déjà chargé lui-même. Pour te renvoyer libre. Et ce qu'il a promis, il a la puissance de l'accomplir. Alors, lâche prise. C'est son affaire maintenant. Lâche prise. Repars de ce lieu déchargé, confiant, paisible, heureux, debout. Amen. Si tu as besoin d'aide, fais appel. Ne repars pas aujourd'hui de ce lieu comme tu es venu. Amen. Je ne les reprendrai pas. Hein. Si, je les reprendrai plus tard pour les ramener à la maison. Mais je ne les reprendrai pas sur mon épaule.